Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.
Nous nous retrouvons aujourd'hui avec l'artiste Hazel Ann Reutling, qui est de passage à Montpellier à l'occasion du démontage de l'exposition collective Dessin 8 à la Chapelle Haute et à l'atelier à 7. Hazel est une artiste d'origine britannique qui vit et travaille aujourd'hui à Marseille et dans le sud-ouest de la France. Elle nous parle ici de sa série de peintures qu'elle a montrées récemment, mais elle nous parle aussi de son parcours, de ses influences et entre autres de Super Surface, ce mouvement artistique né entre Nîmes et Montpellier et dont les artistes les plus connus sont aujourd'hui Jean-Claude Viala, Daniel Liseuse, Noël Dola ou encore André-Pierre Arnal et par lesquels Hazel a été très marquée. Le critique d'art indépendant Cédric Aurel dit à propos du travail de Hazel, « Le travail de Hazel Ann Reutling pourrait évoquer une forme d'impressionnisme de zéro, une version digitalisée du rapport visuel du peintre à son environnement. Dans une relation de pure impression rétienne, elle poursuivrait bien un travail de peinture sur le motif, où celui-ci serait toutefois la forêt d'images digitales se substituant à nos paysages naturels et dont le rétroéclairage par cristaux liquides constituerait cette nouvelle phase de diffraction lumineuse dont l'artiste retranscrit les nuances colorées sur ses papiers et ses tissus. Ou encore, d'après le critique d'art indépendant Guillaume Monsard, Hazel Ann Reutling envisage la peinture avec une liberté qui lui permet de s'aventurer sur de multiples territoires. Sur châssis, toile libre, textile, volume, papier ou bois, elle travaille sur médium en laissant toujours ouvert le champ de l'expérimentation. En résulte, une œuvre vivante qui déborde et s'exprime en énergie. Le régime des images est le principal territoire de ses expériences picturales et se donne à voir notamment à travers le choix des photographies sources que l'artiste récolte quotidiennement et qu'elle compile sans hiérarchie. Dans une iconothèque, les reproductions de tableaux de grands maîtres se confondent aux images numériques déversées sur les réseaux sociaux. Elles se mêlent et s'activent en réaction. D'Instagram à l'histoire de l'art, ou même au quotidien de l'artiste, dès qu'elles sont repérées et archivées, les images entrent dans le registre de la peinture. Elles deviennent des éléments qui peuvent servir les œuvres de couleurs, de textures, de compositions, de rythmes. Hazel Ann Reutling travaille par extraction. Ce faisant, elle propose une œuvre fluide qui s'attache à rendre compte d'un regard définitivement inscrit dans son temps. Écoutons maintenant Hazel Ann Reutling.
Bonjour. Je suis ravie que tu sois là aujourd'hui.
Merci.
On a quelques tableaux devant nous à l'instant. Il y a deux grands formats qui sont de quelle taille? 70 par 50 ou?
Ils sont à, je pense, 80 à 65, je pense.
Mm-hmm. Et le petit format qui est donc à l'horizontale, c'est un 30-40?
34 par 4-4. Mmh.
Alors, est-ce que tu veux nous parler un peu de cette série? Pourquoi tu l'as choisie pour cette expo à 7? Pourquoi tu nous as amené à cette série-là?
Donc, c'est une production toute fraîche qui était même pas finie quand j'ai pensé à l'amener pour l'exposer dans l'exposition. C'est des peintures qui sont venues après un gros projet résidentiel où j'ai travaillé complètement sur autre chose, sur une autre technique, sur une autre échelle et tout. Et là, quand j'ai revenu dans l'atelier, j'ai repris le format de toile à une échelle beaucoup plus intime ou beaucoup plus petit, un format.
Ça, c'est un format intime, les moyens formats.
En comparaison de le projet que j'ai fait en résidence, qui était une peinture liée à l'architecture, qui était 20 mètres par 5 mètres, donc une énorme installation. Donc en comparaison, je peux dire que c'était beaucoup plus intimate, beaucoup plus intime, beaucoup plus proche à moi. Ça travaillait toujours à l'intérieur, parce que parfois je travaille à l'extérieur. Une partie de mon atelier, c'est à l'extérieur. Et toute cette série, c'était fait dans une pièce à l'intérieur. Donc pour moi, oui, c'est un format beaucoup plus intime.
Donc des fois, tu travailles à l'extérieur et tu fais des pièces in situ.
Souvent, oui, la pièce in situ, en réflexion de l'invitation où je suis, le contexte, oui.
Et ces toiles qu'on a devant nous, ils sont très colorés. Est-ce que la couleur intervient toujours de cette manière-là dans ta pratique? Est-ce que la couleur est importante?
La couleur est vachement importante dans ma pratique, donc je m'éclate dans la couleur. C'est vraiment... Une monde que j'ai créé avec des couleurs, un monde émotif, un émotionnel, et sensible. Oui.
Quand on regarde de près les toiles, on voit que c'est une toile, enfin on pense, en tout cas je ne suis pas certaine, mais il semble que c'est une toile non apprêtée.
Exact, oui. Il n'est pas de gesso, donc on fait la peinture qui peut être des peintures différentes. Donc j'utilise parfois aquarelle, parfois l'encre, parfois le pigment et le liant, et parfois la teinture. Mais quand j'utilise le choix de peinture, si la toile n'est pas apprêtie, ça réagit plutôt comme on peut imaginer une teinture. Donc ça pénètre le textile, en fait. Cette porosité de la toile, de la textile, est très importante et très, très centrale dans mon travail, et très personnelle.
Donc il y a un recto en verso. Peut-être ça fait le lien aussi avec tout le travail des tissus que tu fais pas ailleurs. Parce que finalement, tu travailles aussi avec des formes qui ne sont pas de l'ordre de la toile. Donc on sait que tu travailles in situ, mais tu fais aussi des textiles.
Oui, oui, tout à fait. C'est intéressant parce que là, tu as parlé de la recto verso, de le fait qu'il y a deux côtés souvent. Et ça, j'avais travaillé, mais pas dans le genre de textile ou de vêtements. Mais j'avais fait tout un projet de peinture en 2014-2015 où j'avais vraiment joué avec ça. Donc, j'avais carrément peint l'élément figuratif ou un élément le côté de la toile en encre, et puis avec le système de punaise, parce que j'attache la toile avec le punaise sur le châssis, et ça c'est une manière que c'est très facile à enlever et tendre la toile ou bouger la toile avec le punaise en place en lieu de agrafe, en fait.
Même là, ils sont punaisés?
Même là.
Il faut que je vois ça, il faut que je regarde. Alors,
les punaises. Les punaises, oui. Donc en fait, j'avais peint sur un côté et très facilement, tu enlèves, je tournais la toile et j'avais peint sur l'autre côté en réaction de l'écho, non pas l'écho, de la trace qui a apparu en fait, grâce à le premier passe de peinture. J'ai vraiment envie de parler anglais quand je décris ça.
Et ce qu'on voit, c'est donc que c'est un tissu fin, un tissu qui est très facilement imprégnable par, on dirait même de la gouache, mais c'est l'acrylique, c'est ça
ou... Ça, c'est l'encre acrylique.
Encre
oui.
Acrylique. Il y a un recto, un verso, et les couleurs sont beaucoup plus fortes, effectivement, sur le recto. Mais le verso, il est semi-transparent. On peut voir, en fait, ce qui se passe.
Particulièrement avec la lumière.
Oui. Et donc, pour continuer à décrire cette série, il faut ajouter que sur cette toile réalisée en encre acrylique sur de la toile non apprêtée, tu as créé des aplats de gesso.
Yes. Ça, c'est particulièrement pour cette série. Donc, je voulais vraiment les deux contrastes. Je voulais cette image un peu floue que j'ai l'habitude à produire. Et puis, je voulais avoir le contraste avec un dessin très net, avec l'acrylique qui était beaucoup plus épais. Donc, c'était le contraste entre les deux types d'images. En fait, on a une image très floue, qui est très sensible, qui est absorbée par la toile, et puis une image, un dessin très net qui apparaît, qui flotte. Et en fait, ils font partie de la même image au final, mais il y a cette friction entre les deux.
Et ce qu'on voit, c'était escargot.
Escargot et limace.
Limace, oui, limace. On dit en français limace. Oui, yes. Oui. Et on dirait un peu qu'il rompe, voilà, il rompe, pas sur la toile que j'ai à l'instant de la main, mais sur les deux autres, il rompe en ligne. Il y a une armée de limaces.
Une armée de limaces avec la trace de, comment on dit ça en français, slime. Mm-hmm. Le fluide.
La bave.
Et la bave, c'était lié vachement avec l'idée de le gesso, en fait, l'opacité de le gesso, l'épaisseur.
Mm-hmm. Et là, c'est dessiné à l'encre de Chine.
Encre de Chine, yes. Mm-hmm. Yeah.
C'est limace, il se promène, alors on dirait presque qu'il y a un récit.
Oui, il y a un narratif, c'est sûr. Donc, en dehors de juste la matérialité et la sensibilité de la peinture, dans cette série, je voulais jouer avec une narrative très ludique, avec le fruit, chaque fruit qui a sur l'image floue, a des déformités un peu sexuelles, en fait, les formes un peu phalliques, on peut dire. Donc le fruit, c'est un peu l'idée de la partie désiré ou je sais pas comment dire ça, mais c'est le rêve, le désir. Et puis la limace, les escargots sont l'image liée à la sexualité féminine qui allait chasse le désir, tu vois. Donc c'est un peu une blague, c'est un peu une narrative drôle.
Oui, d'accord. Donc il y a une histoire. Il y a une histoire.
C'est une histoire assez personnelle. Ce n'est pas nécessairement qu'on ait besoin de faire cette interprétation, mais je voulais quelque chose un peu cartoon, un peu comique, un peu légère. Voilà.
Alors raconte-nous un peu ton quotidien d'artiste. Tu sillonnes comme ça souvent la France, parce que tu n'habites pas du tout à Sète ni à Montpellier. Pourtant, on se voit aujourd'hui ici. Comment ça se passe pour toi? Enfin, quel est ton temps de travail? Comment tu t'organises?
Donc, en ce moment, j'ai un atelier dans le sud-ouest de la France. Donc, j'ai cet atelier depuis 2019. Et ça, c'était après que j'avais un atelier de la ville à Marseille pendant 2 ans. Donc, j'étais à Marseille pendant 7 ans, en fait. Et je continue d'avoir ce réseau. Donc, ça veut dire chaque année, je suis sur Marseille. Je travaille, je fais des projets, je fais des collaborations avec mon réseau là-bas. Mais en même temps, j'ai cet atelier qui est très isolé, qui est dans la forêt landaise, où je peux aller et faire une production. C'est très, très bien pour faire une production de travail, parce qu'on n'est pas, de distraction, en fait. Oui.
Et donc là, tu travailles aussi à l'extérieur?
Là, je travaille à l'extérieur, à l'intérieur. J'ai un atelier de bois aussi. Et donc, quand je suis là, c'est vraiment un travail de 9 heures jusqu'à... Ça dépasse 5 heures, mais c'est 9 heures jusqu'à 5 heures, on peut dire, chaque jour, un peu comme aller au bureau, où je travaille dans l'atelier. Et puis, ça, c'est interrompu pendant l'année où je voyage pour faire des projets dans les institutions, dans les résidences, sur les expositions, ou même juste pour aller en ville pour avoir l'inspiration, pour être un flâneur, ou pour aller au musée, pour voir les expositions.
Et pour faire des collaborations aussi. Parce
et pour faire les collaborations, ouais. Ça c'est très important pour moi de collaborer, oui.
Oui, qui ponctue ta pratique, ces rencontres et ces invitations que tu fais aussi aux artistes. Ça se répercute aussi pas mal sur les réseaux sociaux.
Oui.
Peut-être tu peux nous parler d'une collaboration.
En particulier.
Oui, je pense par exemple à Butter and...
Ah, Butter Toast, oui. Yeah. Ça, c'est un projet carrément qui prend lieu sur Instagram. Donc, c'est juste une manière ou un prétexte ou une belle initiative, on peut dire, pour aller inviter les artistes de travail à distance, ensemble. Donc, c'est normalement un format de duo, donc ça veut dire deux artistes. Mais ça peut être aussi trois ou plusieurs. Et c'est une invitation, on dit OK, on va produire des images pour publier sur Instagram. Très ouvert comme ça. Et puis c'est une discussion. Donc ça lance une discussion. Et puis entre nous, entre le collaborateur, on peut envisager qu'est-ce qu'on veut faire, tu vois. Donc c'est juste un petit point de départ qui encourage un discours, une conversation. Ça, c'est qu'est-ce que je cherche, en fait. J'aime les initiatives comme ça.
Et ça peut être des personnes qui sont de l'autre côté de la planète.
Exactement, avec l'Internet, avec cette technologie, on peut faire ça. Parce que ce projet-là, particulièrement, c'est avec l'idée d'Instagram, donc l'idée de l'image numérique, en fait, qui peut être partout. Voyage la distance longue, même qu'on a fait avec dans ce projet Butter Toast, on a aussi eu les échanges matériels avec le poste aussi.
Et par moments, ça apparaît après dans la ville aussi, hein, après vous photographiez. C'est pas seulement des choses qui se passent uniquement sur Internet, ça peut être aussi documenté, et puis c'est comme ça que ça s'est posté sur Instagram.
Exactement, donc oui.
Ça passe par l'objet matériel.
Matériel, carrément, oui. Mm-hmm. Et c'est aussi un projet qui permet un peu de questionner comment on est en train d'utiliser Instagram, parce que. Beaucoup des artistes contemporains utilisent ça quotidiennement ou juste pour publier l'actualité. Et ça me fascine, en fait, parce que c'est pas si nouveau, mais c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Tu vois, c'est pas écrit dans l'histoire de l'art, mais tout le monde est en train de l'utiliser. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça, en fait? Et avec ce projet, on peut poser ces questions entre nous et échanger les idées. Oui.
Et est-ce que tu les archives aussi ailleurs? Parce que si jamais il y a un crash de Instagram, ces collaborations qui s'accumulent comme ça en fil sur Instagram, est-ce que tu envisages aussi de leur donner un autre support ou pour l'instant?
Mais ça c'était pas réfléchi au début parce que c'était vraiment lancé dans ce concept d'Instagram, être intègre de c'est quoi Instagram. Donc oui, j'ai des copies, mais parfois j'ai des copies d'images de la taille d'Instagram, en fait. Donc ça fait 1080 pixels. Donc en fait, si on veut faire une impression de cette image, c'est pas possible, on va pas avoir une bonne qualité d'image. Donc c'était pas réfléchi avant que ça peut être autre chose, comme une édition, par exemple. C'était vraiment juste, on va faire comme Instagram, en fait, oui.
Et en même temps, voilà, il y a un côté très éphémère. Vraiment de l'ordre de la conversation, comme tu as dit au départ. Et puis, il y a d'autres collaborations aussi que je connais de toi. Par exemple, la pièce que tu as fait avec Nicolas Ramel, que tu as présentée ici à la Maison de Heidelberg, hein, il y a quelques années. Où la collaboration, c'était un découpage de ta toile et où le cadre était ensuite adapté à ce découpage. Donc là, on était de la sculpture.
Oui, exact. Donc Nicolas Ramel, j'ai fait plusieurs collaborations avec lui, en fait. Donc c'était pas le premier. Et ça fait partie d'une série qui s'appelle Dance Sequence. Et c'est une réaction donc en proposition de la première proposition de quelqu'un, il y a la réaction de l'autre.
D'accord, donc il y a un geste, qui provoque un autre geste.
Qui provoque un autre geste, voilà. Mais comme le titre, c'est, on pense ça comme une danse en fait. Donc il y a toujours quelqu'un qui prend le lead, qui fait le premier geste, en fait, qui amène l'autre. Voilà. Donc on a cette idée. Et puis toute la collaboration, c'est fait avec cette mentalité et ils sont de formes différentes. Mais Nicolas Ramel, il travaille avec les châssis à forme et le volume. Donc souvent, c'est ces propositions de lui dans ce tableau que tu parles. Voilà, c'est les châssis en forme qu'il découpe après que moi, j'ai passé un pinceau. Donc moi, j'ai fait le geste de pinceau et lui, il est enlevé et il a fait une châssis à forme avec le geste. Oui. C'est pas trop clair non plus.
Oui, oui. C'est difficile à expliquer, mais c'était très beau. C'était un tableau à plusieurs châssis emboîtés. Et donc, il y avait le vide entre les différents châssis. On comprenait que c'était un seul objet, mais il y avait ce vide, le découpage qui était présent. Ça crée un objet hybride, sculptural, peinture, on ne sait plus.
Oui, ça vient quelque chose avant que ça disparaisse, parce qu'avec cette initiative, on peut aller jusqu'au bout. Si je mets un coup de pinceau sur chaque petit châssis à forme, ça veut dire la prochaine étape, c'est que ça disparaît, en fait.
Mm-hmm. Oui, complètement. Tout est coupé.
Oui, tout est coupé, tout est effacé. Mm-hmm.
Et peut-être on peut parler un instant de ton parcours. Donc, tu es d'origine anglaise. Mm-hmm. Et quand est-ce que tu es venue en France et comment s'est fait ce choix de rester ici, d'étudier ici, devenir des dernières artistes marseillaises, si on
peut
dire.
Oui, on peut dire ça, oui. Donc c'était en 2013, donc l'année que Marseille était la capitale de la culture. Je suis arrivée à la fin de cette année, en octobre, parce que j'avais pris la décision de reprendre mes études. Donc ça, c'est comment je suis arrivée en France, en fait. Puis, après, j'avais fait 2 ans à l'école de Marseille pour avoir le DNSCP. Et puis, j'ai resté dans la ville parce que j'étais très active, en fait. L'intention, ce n'était pas nécessairement seulement de reprendre mes études, mais c'était vraiment ciblé sur la ville de Marseille. Et pas parce que c'était la capitale de culture, mais je pense à jouer un petit peu parce que quand j'habitais à Bruxelles, où j'étais avant Marseille, j'avais entendu plusieurs fois Marseille, le nom de Marseille sur la radio. Ils parlaient tout le temps de Marseille. Je pense à rentrer dans mon psyché. Donc quand j'ai fait le choix de m'installer dans une autre ville, c'était Marseille.
Ça t'a fait rêver?
Voilà, c'est ça. Je venais de Marseille et donc la manière de reprendre mes études était aussi une manière de m'intégrer dans la ville. Et puis, donc, je m'installais dans la ville avec l'intention de rester là. J'ai fait plusieurs projets. Après mon DNSCP, j'ai continué d'exposer. Et puis, j'étais dans les ateliers de la ville pendant 2 ans, qui était une expérience.
Et puis, tu es aussi dans le réseau PACA, plus généralement. Tu es l'artiste.
Exactement, je fais partie de la document d'artiste PACA, oui. Oui.
Donc c'est comme une région qui était très proche, enfin, à laquelle tu es liée.
Oui, c'est sûr.
Et ça te manque des fois, de l'Angleterre?
L'Angleterre, oui, parce qu'on est parlé de l'Angleterre. Oui, mais l'Angleterre, ça, c'est vraiment lointain dans mon parcours. Parce qu'en fait, je suis partie de l'Angleterre pour aller en Écosse pour faire mes premiers diplômes. Donc à 18 ans, je suis partie de l'Angleterre. En fait, je rentre en Angleterre pour visiter ma famille. Ouais.
Et de quelle famille tu te sens proche, artistique?
Ça veut dire quoi?
Est-ce qu'il y a des artistes, est-ce qu'il y a des mouvements qui te sont particulièrement proches?
Particulièrement proches, mais après mes études à Marseille, je pense que Support Surface a devenu très, très
important. Support Surface?
Oui, Support Surface a devenu très important pour moi après mes études, parce qu'en fait, l'école de Marseille a toute une histoire très riche autour de ce mouvement.
Et donc oui, il y a Support Surface qui t'a marqué.
Oui, parce que c'était très frais pour moi, parce que je n'ai jamais regardé ça avant que j'ai venu. J'ai l'impression qu'il avait un peu mal pris, on peut dire, un complexity, on peut dire, autour de ça, particulièrement autour de la peinture, tu vois. Donc il y avait cette complexity que je n'avais pas tout à fait compris quand j'étais étudiant à Marseille. Mais pour moi, oui, ce pot de safas, c'était quelque chose que je ne comprenais pas. Je m'approchais, en fait, parce que j'étais déjà avec plusieurs gestes dans ma pratique qui m'approchaient. C'était tout frais et tout intéressant pour moi.
Et ça, ce n'était pas connu en Écosse?
Oui, c'est connu, bien sûr, mais ce n'était juste pas où le regard dominant est. Donc, en fait, moi, j'ai jamais entendu mon prof ou mes collègues ou mes amis ou les autres peintres avec lesquels j'ai travaillé et j'expose. Ils ne parlaient pas de ça, ni en Écosse, ni à Bruxelles. Donc, ce n'était pas quelque chose mis devant.
Peut-être qu'ils ne connaissaient réellement pas.
Peut-être qu'ils ne connaissaient vraiment pas aussi. Oui. Non, mais je pense que c'était connu quand même en Glasgow, oui, mais c'était juste vraiment pas...
Est-ce qu'il y a une sensibilité anglaise là, je trouve, quand même, dans support surface?
Oui.
On peut quand même trouver aussi des artistes anglais qui travaillent de cette façon-là. Il y a comme ça un pince-souris.
Je pense qu'il y a plein de peintres à cette époque qui travaillent cette déconstruction, l'idée de support et surface un peu partout, mais oui, même en Angleterre aussi, oui.
Et ce qui me fait penser à la pointe d'humour qu'on a dans les tableaux qu'on a devant nous. Et ça, c'est quand même quelque chose de très anglais.
Ah oui, ça c'est sûr. Ah. Ça c'est un peu l'humour anglaise de faire l'autodérision. Je pense pas que c'est un bon mot d'utiliser parce que la traduction, c'est pas exactement ce que je veux dire. Parce que je veux utiliser le mot cheeky en anglais, tu vois. Et ce que j'ai trouvé en France, c'est plutôt auto-division, mais je pense que c'est beaucoup plus lourd, en fait, c'est le mot, je pense. Mais oui, l'humain anglais, d'être un peu...
Espiègle, peut-être.
Espiègle, oui, je ne connais pas ce mot.
Cheeky, espiègle.
Voilà, cheeky. Oui, un peu.
Oui. Oui, alors ça, c'est présent dans ton travail, je pense. C'est pour ça que je me posais la question à... Quelle est ta famille? Parce que malgré tout, même si tu es artiste marseillaise, tu as quand même un background qui n'est pas le même et tu amènes autre chose. Enfin, on sent qu'il y a quand même une autre histoire derrière ça.
Bien sûr, bien sûr. Donc oui, la peinture en Glasgow, à Glasgow School of Art, oui, c'était pas nécessairement une famille parce que c'était très éclectique. Mais bien sûr, c'est une attitude, c'est sûr. Glasgow School of Art, c'est vraiment centré sur la peinture. Donc mes études, c'était peinture. Et il y a tout un discours, et c'est très actif, et très encouragé, et très vivante, et beaucoup de discours à travers la peinture. Donc quand j'étais là, il y avait par exemple Kathy Wilkes, Hayley Tompkins, Victoria Morton. Je vais pas faire toute la liste, mais c'est les artistes qui étaient un peu qu'est-ce qu'on regarde en tant qu'étudiante,
le
peintre qui nous attire, qui nous soutient, qui nous inspire et nous soutient. Oui. Donc, et ça, c'est les artistes qui utilisent la peinture d'une façon très ludique. Carla Black aussi, par exemple. Donc, on est dans une sphère où la peinture devient jouissante et on joue quelque chose. On joue avec l'humeur, avec la légèreté.
Tu es vraiment marqué par l'école écossaise, ce jeu de l'atelier, le hasard aussi qui est jouissif, hein, parce que la découverte, le fait d'expérimenter, on sent le plaisir d'expérimenter dans ton travail. Et j'imagine pour toi, ça a dû être étonnant de venir en école d'art française pour le côté et l'approche très cérébrale.
Ouais, c'était autre chose, c'est sûr. Oui, j'étais pas prête à ça. Mais je trouve que c'est très complémentaire quand même. Parce que par exemple, pendant mes études de Glasgow, oui, bien sûr, on est écrite, on parle beaucoup. Mais quand on présente nos œuvres, c'est les œuvres qui parlent. Donc c'est vraiment cette attitude qu'on peut transmettre tout à travers une œuvre. C'est pas besoin de la contextualiser. De faire tout un discours et puis pour le DNSCP en France, à Marseille, c'était presque l'envers. C'était mes œuvres, l'exposition que j'ai faite pour mon diplôme était un peu l'arrière-plan. Et moi, j'étais devant, et c'était un peu, ils me jugent comment je peux expliquer le processus, l'expérimentation, qu'est-ce que j'ai fait, quelle direction je vais prendre, comment je réfléchis mes œuvres. Donc ça, c'était, oui, c'était un contraste, mais comme j'ai dit, complémentaire.
Ouais, mais en même temps, tu ne l'as pas gardé, ça. C'est-à-dire que tu es quand même aujourd'hui dans une... Parce qu'on voit, c'est effectivement plutôt une pratique de la peinture qui parle de peinture, la peinture parle pour soi.
Oui.
Et donc, il y a vraiment le médium qui parle et pas... Enfin, il n'y a pas d'approche conceptuelle de le sens où il y a un projet qui est conçu en avance, mais plutôt une pratique au quotidien de l'atelier qui amène... qui fait naître les œuvres.
Exact, exact. Mm. Mais souvent, avec le côté collaboratif que j'ai parlé, j'utilise cette mentalité de, un peu, si je vais organiser quelque chose en avance, c'est un peu la structure, un peu la règle de jeu, on peut dire, avant de me lancer dans la peinture. Mais oui, c'est sûr et certain, quand je suis dans l'atelier, c'est un travail, c'est une démarche très empirique. Ça... Tout le contenu vient de la pratique de me lancer dans la peinture, en fait, et croire que la peinture peut être autonome au final. Yeah.
Merci beaucoup.
Merci.
Grammaire Fantôme.
Merci d'avoir été à l'écoute de Grammaire Fantôme. À la semaine prochaine.
Grammaire Fantôme. Grammaire Fantôme. Grammaire Fantôme. Grammaire Fantôme. Une émission Panadia Lichtig.